seulement langagière, dans des circonstances et environnements donnés, à l'intérieur d'un domaine d'action particulier. Si les actes de parole se réalisent dans des activités langagières, celles-ci s'inscrivent elles-mêmes à l'intérieur d'actions en contexte social qui seules leur donnent leur pleine signification. Donc en privilégiant cette perspective de type actionnel pour l'enseignement-apprentissage des langues, et en considérant l'apprenant comme un acteur social ayant à accomplir des tâches, les auteurs, les rédacteurs du cadre européen ne se doutaient certainement pas de l'impact qu'aurait eu cette expression-là dans notre discipline. Donc depuis quelques années, l'action, l'agir sont des termes qui reviennent très souvent dans les organismes de formation, dans les tables rondes, et c'est devenu aussi, le terme perspective actionnelle est devenu un terme marketing dans l'édition de manuels de langue. Donc dans cette définition ici présente, on remarque la distinction entre deux types d'agir. L'agir d'apprentissage et l'agir d'usage. Parce qu'on a une distinction entre apprentissage et usage de la langue, hein, comme on le voit dans cette définition. Dans cette distinction-là, pardon, on a... une différence donc, entre tâche et action donc, qui a été évoquée par Christian Puren, donc je le cite. Il propose d'appliquer cette différence pour distinguer clairement tâche et action en définissant comme tâche ce que fait l'apprenant dans son processus d'apprentissage et comme action ce que fait l'usager dans la société. Cette distinction permet de différencier donc, nos deux types d'agir. Et cette perspective actionnelle correspond au lien qu'entretiennent agir social et agir d'apprentissage. Donc, même si ce lien a été mis à jour donc assez récemment dans le cadre européen, ce n'est pas une redécouverte. On a depuis longtemps une tâche qui permet de mettre en lien ces deux types d'agir, c'est le projet pédagogique. Donc, je vais faire rapidement un aperçu historique du projet. Donc, je pense que c'est vraiment des rappels. La pédagogie du projet trouve ses racines à la fin du 19e siècle avec Dewey. Avec son mot d'ordre, hein, « learning by doing », apprendre par l'action, qui contient en germe les fondements d'une perspective actionnelle. Puis chez Freinet, donc pour qui la construction d'un projet permet d'apprendre à prévoir les conséquences d'un acte, apprendre à observer pour prendre des conditions environnantes en considération et donner une signification. Les élèves doivent être capables d'utiliser ce qu'ils ont appris à l'école dans la vie communautaire quotidienne et vice-versa. Je vous proposais également une définition du projet. Donc, on a énormément de littérature à ce sujet-là. Donc, j'ai fait un choix au niveau de la définition. Je suis partie du principe que tout être social, nous tous, on fonctionne par projet de différentes natures et de différents degrés. On a tous des projets, des projets de vie, ça peut être des projets pour acheter quelque chose. On a tous des projets, nous mettons tous en place des projets dans notre vie quotidienne ou professionnelle. Ce projet, le terme de projet, légitime et rassure nos aspirations sociales, de manière générale. Donc, je vais m'appuyer à partir de là sur la définition de Tillman, de Francis Tillman, donc en 2004, qui le définit comme une tâche définie et réalisée en groupe, issue d'une volonté collective, aboutissant à un résultat concret, matérialisable et communicable, et présentant une utilité sociale. Les contenus enseignés sont directement mis en action, et le lien entre agir d'usage et agir d'apprentissage est particulièrement fort. Et on retrouve les préceptes de Dewey et Freinet avec cette définition-là. Donc mettre en place un projet pédagogique demande une organisation particulière. Forte de mon expérience en tant qu'enseignante de français langue étrangère, parce que c'est mon métier, j'ai mis en place un certain nombre de projets. J'ai mis en place ces projets à partir de 5 phases. J'oublie d'avancer en même temps. La première phase, c'est l'identification, donc l'identification des besoins, par exemple. L'élaboration du projet, la mise en œuvre du projet, la mise en œuvre effective. Donc là, on va avoir la mise en œuvre finale, mais aussi des répétitions. Et l'action. Et enfin, l'évaluation, la dernière phase. Donc le projet en didactique des langues permet la mise en action de traits culturels particuliers. Donc un projet comme la publication d'un conte, par exemple, au sein d'une structure, va permettre de mettre en action un certain nombre de points culturels, notamment la culture d'action de chacun des participants, en plus d'une culture qu'on va qualifier d'académique ou de savante. Il s'agit alors de placer l'apprenant dans une situation où ils pourront exercer leur autonomie, leur pouvoir de décision et leur volonté à agir en collaboration avec d'autres apprenants ou d'autres acteurs sociaux. Il s'agit ainsi de définir des conceptions communes indispensables au travail collectif. Donc, dans cette perspective-là, le projet apparaît comme une macro-tâche qui met en lien, comme nous l'avons déjà dit, agir d'usage et agir d'apprentissage. Cette tâche d'enseignement des langues constitue un modèle de co-construction culturelle du savoir. Donc les savoirs, les savoir-faire, les savoir-agir qui constituent les cultures d'action individuelles de chacun des participants d'un projet permettent de construire dans la coopération une culture d'action partagée. Autrement dit, à travers la mise en place d'un projet pédagogique, les acteurs en présence mettent à contribution leur culture individuelle au profit du groupe. Ce qui permet, mon dernier point, la création d'une culture d'action commune dont la matérialisation sera ou est le produit du projet. Donc cela permet une redécouverte du sujet et de son individualité à travers sa réalisation et son épanouissement dans la collectivité, donc par un projet matérialisable. Donc, je vais m'intéresser aux différentes composantes culturelles en jeu dans le passage d'une culture individuelle à une construction collective d'une culture d'action au vu d'un produit donc sous forme de projet. Donc, je vais m'appuyer pour cela sur trois exemples de projets. Le premier, donc, je l'ai intitulé « Projet Conte ». Donc, il a été mis en place en 2004 au CILEC de Saint-Étienne. Donc, le CILEC, c'est le Centre international de langue et de civilisation donc de l'université Jean Monnet à laquelle j'appartiens actuellement. J'ai mis en place ce projet donc avec des étudiants de différentes nationalités, de niveau A2 B1 sur l'échelle du cadre européen. Donc les nationalités présentes étaient donc entre autres coréennes, chinoises, turques, brésiliennes. On avait vraiment des nationalités très différentes au sein du même groupe. Ce projet s'inscrivait dans un cadre de français intensif, donc à peu près 15-18 heures par semaine. Donc on a vraiment eu le temps de placer ce projet-là. Ce conte-là a été réalisé dans un objectif de réutilisation des temps du passé. Donc c'était l'objectif premier. Donc j'en reparlerai un petit peu au compte-gouttes dans l'intervention, et je pense que cela va éclairer sur le fonctionnement des cultures d'action. Le second projet, c'est le projet Cuisine, que j'ai intitulé Projet Cuisine. Il a été mis en place au lycée hôtelier de Zabok en Croatie en 2005, avec des étudiants donc de terminale hôtellerie, de grands adolescents niveau A2 du cadre européen. Donc, c'est un projet qui a été réalisé en partenariat avec l'ambassade de France et avec d'autres professeurs de l'établissement, notamment le professeur de cuisine et un professeur de français. Donc, ces élèves étaient très très peu motivés par l'enseignement du français. C'est vraiment une option. Donc, en Croatie, c'est une option avec l'informatique et la religion. Donc, ça vous donne une idée de la place du français dans les lycées hôteliers croates. Donc c'est des étudiants qui n'avaient pas forcément choisi le français, qui n'étaient pas motivés, qui ne voyaient surtout pas l'utilité sociale d'apprendre le français. Donc on a mis en place ce projet-là, qui était de préparer un dîner officiel pour l'ambassade de France en Croatie. Donc il y avait également le maire de la ville et l'équivalent du conseil régional qui allait être présent et qui était présent pour ce dîner officiel. Donc ils devaient préparer le dîner et présenter les plats, expliquer comment ils ont fait. Donc c'était des plats français et croates. Donc on était là dans l'interculturalité et plus dans la co-culturalité, on verra, dans la façon de travailler. Le troisième projet, c'est le projet journal. Donc, c'est un titre pas très original, mais qui a été mis en place à l'Alliance française de Busan en Corée du Sud en 2006. Avec des adultes de niveau B1-B2. Donc là encore, j'avais des adultes de différentes nationalités. J'avais beaucoup de Coréens, mais j'avais aussi des Canadiens, Russes et Argentines. Donc là aussi, un intérêt au niveau des cultures. Donc voilà pour ces trois projets. Très descriptif, mais vous verrez, ça, je pense que ça va prendre sens dans quelques instants. Donc, la première chose dans la construction, la co-construction d'une culture d'action commune, la première chose à éclaircir, c'est le concept de coaction. Donc, ce concept de coaction, il a été pour la première fois mis en mots par Blondel dans son ouvrage L'Action. Pour lui, la coaction est une convergence et une union d'activités. Ce qui signifie que c'est dans l'union et le partage des connaissances, par exemple, que l'on va coagir avec d'autres. Toujours pour Blondel, il ajoute que l'action ne se restreint pas dans l'enceinte de la vie individuelle. Ainsi, nulle résolution ne peut se réaliser dans l'intimité de la personne sans intéresser le monde environnant, sans y chercher un concours, sans y provoquer une action correspondante. Donc agir, pour lui, est nécessairement collectif. On n'agit jamais seul. Il le répète à plusieurs reprises dans son ouvrage. Donc il y a nécessairement un passage par la coaction dans toute action humaine. Ça, c'est le point de vue de Blondel et c'est le point de vue que j'ai adopté aujourd'hui. Donc pourtant, mise à jour récemment dans ce cadre, cette distinction action-coaction que l'on retrouve à travers notamment les mises en place de projets, ce n'est pas une découverte. On a depuis longtemps cette tâche présente. Indiqué Christian Puren dans son article de 2002, le concept de coaction n'est pas nouveau. Il est en particulier utilisé par certains psychologues constructivistes, parallèlement à celui de conflits socio-cognitifs, pour intégrer dans la théorie piagétienne la dimension collective de la relation sujet-objet, dont on a parlé ce matin, qui leur semble y faire défaut. L'une des formes de mise en œuvre de cette conception de l'apprentissage est connue depuis longtemps en pédagogie sous le nom de projet, dans ce que l'on appelle précisément la pédagogie du projet. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Ce passage donc, de l'action à la coaction nécessaire dans la pédagogie du projet pour mener à bien le projet doit se plier à quelques conditions. Ces conditions du passage donc, de l'action à la coaction, il va se faire, donc, si, pour que ce passage soit effectif, il faut qu'il y ait un certain nombre de conditions. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait un partage de la connaissance entre les acteurs en présence dans un projet. Il faut également que chacun amène ses vécus de conscience à l'expression. Donc ça, je m'appuie sur la théorie de la distribution sociale de la connaissance d'Alfred Schutz. Donc j'en parlerai dans la diapo suivante. Et il faut également trouver des objectifs communs et un intérêt dans l'action collective pour chacun. Donc l'action collective en tant que construit social doit permettre l'organisation interne d'une structure sociale donnée. Donc, pardon. J'ai pas encore, voilà. Donc ce fut le cas en particulier lors de la mise en place du projet Cuisine donc, en Croatie, où l'objectif commun n'était possible que dans la coaction. Chacun en fait, trouvait son intérêt personnel au sein de l'action collective. Donc l'individualité est mise en valeur par les tâches accordées ou négociées par chacun en fonction des compétences acquises par le sujet. On avait chaque participant possédait une compétence particulière. Donc il y avait des serveurs, il y avait des chefs pâtissiers. Donc chacun avait une tâche qui était liée à sa compétence. Donc il y avait un intérêt personnel à établir cette tâche, mais aussi un intérêt collectif pour le bien pour mener à bien le projet et parvenir à l'objectif final. Dans le projet, donc j'ai présenté le second projet, le projet journal, cet objectif commun, donc la réalisation d'un journal qui était destiné à être publié au sein de l'Alliance française, a pu être mené à bien grâce au partage des connaissances, par la conscientisation des vécus de chacun et des expériences de chacun, donc notamment sur la façon de travailler, et surtout parce que chacun a trouvé un intérêt personnel dans la réalisation du travail collectif. Et c'est pour ça que ces projets ont fonctionné, je pense. Donc construire collectivement peut naître de différentes choses. Agir ensemble, c'est faire passer ses propres intérêts dans l'organisation collective. En situation d'enseignement-apprentissage des langues, construire collectivement peut naître de deux types de comportements. Le premier, c'est la contrainte. Donc là, je m'appuie sur Crozier et Friedberg. par la soumission imposée ou consentie des volontés partielles des participants à la volonté aux objectifs d'ensemble. Le second comportement, c'est le contrat, j'ai mis entre parenthèses didactique, c'est-à-dire la négociation et le marchandage qui peut se dérouler de façon explicite aussi bien qu'implicite. Donc dans ces deux cas, l'action collective demande de la part des acteurs un effort et elle n'est jamais gratuite, ce n'est pas un exercice gratuit. Donc elle demande soit de mettre de côté des ambitions personnelles, soit de négocier pour conserver une partie de ses ambitions. Donc par expérience, la contrainte marche rarement et ce sera plutôt dans le contrat et dans la négociation que l'on va parvenir à établir un objet commun, à établir une action collective, une co-construction collective des savoirs. Donc on a par exemple, par rapport au projet mis en place, on va avoir dans un cas, donc sous la contrainte, les apprenants vont exécuter des tâches demandées à l'avance donc, et en mettant de côté leur volonté d'agir individuellement. Et on a une annihilation du sujet au profit du groupe et du projet. Dans le cas de la négociation et du contrat, donc celui là où je me place le plus, l'apprenant, enfin les acteurs vont devoir négocier les contenus avec l'enseignant ou avec d'autres apprenants, mettre à profit leurs compétences dans l'action collective, dans une perspective de coaction. Dans ce cas, le contrat établi entre les apprenants et l'enseignant, ou entre les apprenants, va permettre à chacun de conserver une part d'individualité et d'ambition personnelle au profit du groupe et d'un produit collectif. Le fait que chacun garde un intérêt personnel dans l'action collective est garant d'une part de la réussite du projet en lui-même et d'autre part, si on va un peu plus loin, est garant de l'expression de son individualité en tant que sujet pensant et agissant en société. Il nous faut à présent voir quels sont les aspects sociaux qui sont liés à ces négociations, les aspects sociaux de l'agir dans la construction collective des savoirs. Donc, je vais parler, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, d'Alfred Schutz. Donc, c'est un philosophe et un sociologue de l'action. Pour lui, en fait, le monde social est constitué d'acquis dont l'intégration est implicite dans les actions projetées. Donc, dans son quotidien, pour Schutz, l'individu acclimaté à une culture intègre un ensemble de savoirs et de savoir-faire qui aura le caractère d'allant de soi. Qui sont pris, donc ces allants de soi, ces savoir-faire sont pris pour des acquis culturels. Donc dans cette perspective-là, on va avoir deux choses. La première sera d'ordre culturel ou civilisationnel, ou les deux. Donc, par exemple, de savoir qu'en France, je ne peux pas faire mes courses à 7h du matin dans un supermarché, ça va de soi. C'est un des allants de soi dont Schutz parle. Le second, celui qui nous intéresse plus particulièrement dans les projets, fait partie de la culture d'action. Donc cette culture d'action, elle est visible par et dans l'action. Donc la répartition du travail au sein d'une équipe, donc comme c'est le cas dans les projets pédagogiques, cette répartition du travail, cette façon de travailler, elle est représentative des cultures d'action mises en place. Donc, j'ai mis en parallèle deux exemples. Pour les Coréens, par exemple, quand on travaille en commun, quand on travaille en projet, la première chose qu'ils vont faire, c'est travailler chacun de leur côté. Ensuite, ils vont mettre en commun et vont négocier à ce moment-là. Alors qu'en France, les Français, on a tendance à faire l'inverse. C'est-à-dire, on va d'abord négocier, discuter sur ce qu'on va faire, répartir les tâches, et ensuite, chacun va travailler de son côté et travailler sur la tâche qui lui incombe. Donc là, on a deux logiques complètement différentes. Et deux cultures d'action différentes. Donc quand on doit travailler un Français et un Coréen sur un projet commun, ces deux cultures d'action vont nécessairement se heurter, se confronter. Et pour que cela fonctionne, il faut négocier une culture d'action partagée, donc qui va être au milieu de ces deux cultures d'action, pour avoir un objet, on va dire, un peu tampon, qui permet de faire parvenir des cultures d'action qui vont être différentes, pour arriver à une culture partagée en vue de réaliser un projet. Donc ce caractère allant de soi, donc des cultures, ici des cultures d'action, donc des savoirs, marque l'aspect culturel de l'action projetée. Donc les savoirs qui sont acquis précédemment et les allants de soi décrits par Schutz constituent une somme d'expériences à organiser ensemble, en vue d'une action future, en vue du projet, en vue de réaliser le projet. Une deuxième chose qui est importante aussi dans ces, pour comprendre les processus en jeu dans les cultures d'action, c'est la prise en compte de la temporalité dans l'agir. Donc l'aspect temporel de l'action humaine a été beaucoup pris en compte par Schultz. Et c'est ce qui va nous permettre de comprendre les enjeux d'un enseignement apprentissage des langues dans l'action. Lui, il définit trois modes, le modo pretérito, donc le passé, le modo presenti, le présent, et le modo futuri exacti. Et la mise en place d'un projet, on va passer par ces trois temps, et on va avoir une boucle récursive sur ces temps-là. À l'intérieur de ces trois temps, on a des aspects culturels, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même façon d'envisager la temporalité dans l'action. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous la même vision du présent, du passé, du présent et du futur. Donc là, on va avoir aussi quelque chose à jouer au niveau des processus de co-construction du savoir. Donc l'aspect co-culturel passe par un partage des connaissances, comme on l'a dit, ce qui permet de mettre en place... Bon, je vais accélérer alors. Donc voilà, je vais peut-être passer... voilà. Donc juste un petit mot rapide sur les cadres de référence. Le cadre de référence a été beaucoup utilisé en psychologie sociale. C'est-à-dire que l'individu pense toujours de la même façon que son groupe de référence, de son groupe d'appartenance. Donc là, on va partir de ça. Dans une construction en projet avec d'autres apprenants, on va avoir une confrontation des cadres de référence. Et on va avoir une création d'un cadre de référence intermédiaire entre les deux cadres de référence et de culture des deux apprenants pour parvenir au projet. Donc, je ne sais pas si je suis très claire, parce que du coup, je vais assez vite et je passe pas mal de choses. Mais j'en suis vraiment désolée. Voilà, je pensais avoir bien minuté, mais non. Non. Oui. Donc là, bon, j'avais la citation. Je peux vous la laisser en attendant. Donc j'avance un petit peu. Le projet est donc une matérialisation du passage d'une culture d'action individuelle à une culture d'action collective, d'un cadre de référence à un autre cadre de référence, et permet la création d'un cadre de référence intermédiaire, mais aussi d'une culture d'action partagée, qui va être entre l'individuel et le collectif. Ces cultures d'action individuelles, je passe un certain nombre de choses, on peut la définir comme une façon d'agir. C'est une manifestation de traits culturels dans l'action. Et on a aussi une mobilisation de savoirs culturels actionnels, et ce sont des savoirs relatifs à l'action humaine, à l'agir humain. Elle se compose d'un ensemble d'allant de soi, donc pour reprendre ce que j'ai évoqué précédemment avec Schultz. Je m'excuse d'aller si vite. On a donc un passage de la culture d'action individuelle à une culture d'action collective. Cette culture d'action collective, elle se compose de savoirs actionnels. Elle se manifeste dans la prise de décision, la négociation, la mise en commun, dans toutes les tâches en fait, qui requièrent une coaction. Et cette construction de conception de représentation commune, c'est une construction de conception de représentation commune, pardon, et elle se construit avec d'autres et se manifeste dans la mise en place de projets. Alors, je voulais aussi évoquer les composantes de la compétence actionnelle. Donc là, je vais aller aussi très vite et je vais passer sur les deux composantes qui nous intéressent pour le projet. C'est la composante co-culturelle de la compétence actionnelle, qui se compose d'une culture individuelle mise au service d'une culture collective pour former une culture d'action partagée. Donc là, ça va être l'intermédiaire entre les deux cultures individuelles et... le produit collectif, dans le but donc de réaliser un produit matérialisable qui va être construit collectivement. La deuxième composante qui est en jeu dans les projets, c'est la composante co-référentielle de la compétence donc actionnelle. Et cette composante désigne la co-construction et la co-appropriation de différents domaines d'expérience des objets du monde et de leurs relations. Elle se compose de la culture issue du cadre de référence de l'individu, donc dont j'ai parlé tout à l'heure. Un dernier mot sur les processus socioculturels qui vont être en jeu dans cette action collective et dans le projet. Donc on va en avoir trois. La coordination, la coopération, la collaboration. Je pense que je n'aurai pas le temps de détailler mes trois concepts, malheureusement. Donc ça peut peut-être faire l'objet d'une discussion ensuite entre nous. Donc c'est trois processus à travers lesquels on va avoir une co-construction collective des savoirs et aussi une mise en jeu des cultures d'action dans les projets. Donc j'avais prévu une étude assez conceptuelle de ces trois processus. Donc je vous invite ensuite, après l'intervention, peut-être qu'on en discute un petit peu, qu'on éclaircisse de cette façon-là, en m'excusant encore d'aller si vite et du coup de sabrer un petit peu les choses. La dernière chose, c'est par rapport à ces trois processus, on va mettre en place des savoirs et des cultures d'action qui vont se manifester dans la prise de décision, la négociation et la mise en commun et la production. Donc c'est à travers ces quatre procédés que l'on va rendre visibles les cultures d'action et qu'on va pouvoir permettre de construire des cultures d'action partagées. Les remarques et la conclusion, je vais vous laisser la parole et on va peut-être échanger par rapport peut-être à des manques. Je suis allée très vite, donc si vous avez des questions, si vous avez des remarques, on va peut-être pouvoir les faire en guise de conclusion et de discussion. En m'excusant encore de cette rapidité de fin d'intervention.
Je comprends sa frustration parce qu'en fait, elle est en train de finir une thèse, un doctorat.
Elle est en train de finir une... Voilà, elle finit une thèse, un doctorat sur le projet en didactique du français langue étrangère. Et donc, faire tenir tout ça dans 20 minutes, c'est carrément mission impossible. Hein. Donc, on va se prendre, par contre, nous, maintenant, 5 minutes, parce qu'on a 5 minutes de retard, sur des discussions, des questions, des remarques. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres micro-baladeurs ou si celui qui veut poser des questions vient ici le prendre. Il y a un autre micro-baladeur, apparemment. Voilà. Questions, remarques. Stéphano et Madame ensuite. Bah, allons-y, là. Si tu permets, Stéphano. Voilà. Tout prêt, là. Vas-y. Ouais.
Simplement une petite remarque. Vous avez dit à un moment que l'individu se réfère toujours au cadre de référence de son propre groupe. Ce qu'on observe quand même dans des groupes qui sont culturellement plus homogènes, qu'il y a des gens qui s'affranchissent des cadres de référence auxquels ils devraient normalement se référer, et qu'on a dans des groupes même plus homogènes culturellement, ces processus de négociation, enfin de coordination, coopération et collaboration. Donc on observe même dans des groupes culturels homogènes ces phénomènes-là. Enfin, moi je le vois avec des étudiants de Master 1 FLE, qui passe par la prise de décision, par la négociation, etc. aussi. Donc voilà, c'est simplement cette petite remarque. Heureusement, il y a des gens qui s'affranchissent, et là je pense à Chantal Forestal, heureusement il y a des gens qui s'affranchissent des cadres de référence de leur groupe culturel. Moi j'avais aussi développé cette partie-là.
Ah ouais, bon, je suis passée assez vite. D'accord, mais c'était juste une remarque. C'est une remarque d'autant plus importante qu'on se pose toujours la question, mais qu'est-ce que ça devient, ça, lorsqu'on est en didactique scolaire, avec l'enseignant et tous les élèves qui sont de la même culture? Comment est-ce qu'on peut faire fonctionner ça? Puisqu'il n'y a pas de différence de culture sociale. Or, comme dit justement la collègue, il n'y a peut-être pas de différence de culture sociale, mais il y a des différences de culture individuelle. Et au niveau de la manière dont on conçoit chacun l'action, il y a des différences qui relèvent véritablement presque de cultures différentes. Hein, suivant les milieux sociaux, suivant les expériences familiales, suivant les expériences existentielles. Et là, même en didactique scolaire, il est possible de jouer, justement, de jouer sur ces différences. Stéphano ? Oui, je crois, de toute façon, je crois qu'il ne fonctionne pas le micro, donc si tu parles fort, ce sera aussi bien. Non ? Ah, parce que pour l'enregistrement, excuse-moi. Allons-y. Si tu veux passer à la postérité, Stéphano, il faut t'enregistrer.
Je suis un anthropologue, donc je suis très intéressé par les choses que vous avez dites et j'aimerais bien être là dans la mise en place du projet. Il y a plusieurs choses qui m'intéressent. Là, je pense que dans 20 minutes, il n'est pas facile de tout dire. Oui, oui. Donc, des questions de curiosité qui peut-être demandent 2 heures de réponse. Alors, je demande presque naïvement, pourquoi l'insistance sur la question de l'action ? je comprends très bien, mais je suis anthropologue. Quand vous avez fait l'exemple des Coréens et des Français, tout de suite je dis, mais la négociation est un terme aussi complexe et intéressant que l'action. Et là, le fait de renverser est très intéressant. On pourrait, par exemple, parler de manière idéale d'une mise en place du projet à partir de la syntaxe qu'il y a entre l'action et la négociation. Mm-hmm. Parce que, par exemple, des anthropologues disent qu'un trajet très simple est celui qui part du contrat, de la performance qui correspond à l'action, et après l'évaluation. Si on renverse, donc on pourrait penser toute une syntaxe spéciale du projet qu'on pourrait observer. S'il y en a, par exemple. Donc, je me demande... Et l'autre question est... une question, voilà, ça suffit. Parce que déjà, la question de l'action est très intéressante. Et...
Ça va être difficile de répondre rapidement à cette question-là, parce que je pense que ça mérite vraiment discussion et échange. Effectivement, c'est intéressant de renverser les choses par rapport à la négociation, action-négociation. Ici, je l'ai vraiment abordé, la négociation, comme un procédé qui va permettre de rendre visible l'action et les cultures d'action de chacun. Je l'ai abordé de cette façon-là. J'ai vraiment volontairement simplifié aussi parce que c'est un sujet qui est éminemment complexe et qui mériterait discussion.
Je dis simplement parce que la négociation souvent est conflictuelle. Et comme je m'occupe des conflits, je pense qu'il y a des choses intéressantes qui se passent, disons, avant l'action même, au niveau de la négociation.
C'est parce que c'est conflictuel que ça rend visible les cultures d'action. C'est bien parce que c'est conflictuel qu'on peut les voir, ces cultures d'action.
C'est là que la mise en œuvre actuellement de la pédagogie du projet dans le manuel de français dans le projet, par exemple, on voit très bien qu'on est dans la culture communicative et donc on donne absolument un projet tout ficelé de manière à ce que les apprenants puissent immédiatement commencer à discuter sur la réalisation du projet. Ils ne sont absolument pas impliqués dans la phase de conception. C'est vrai que là, lorsque les apprenants sont de la même langue, la langue de conception, de discussion, de négociation entre eux, ça va être difficilement la langue étrangère. C'est un problème que j'avais posé à Émilie, et elle m'a dit, il n'est pas résolu, quoi. C'est vrai. Alors que dans les classes de français langue étrangère, ils sont de langues différentes en même temps, la langue de négociation naturelle, de conception du projet, va naturellement être le français. Donc en didactique scolaire ou en didactique monolangue, il y a vraiment un travail à faire au niveau de la didactisation de la pédagogie du projet. Parce que là, en toute évidence, les effets ne sont pas les mêmes. Franck, question très courte
sur la notion de. Oui, merci. C'est une remarque sur la question du temps. C'est un des problèmes terribles que connaissent tous les enseignants de tous les pays du monde. Ils se plaignent, on ne les écoute pas, on pense que c'est des rebattes quand ils en parlent. Mais tous les enseignants que j'ai rencontrés dans tous les pays où je suis allé, je ne suis pas allé dans tous les pays du monde, mais je pense que, hypothétiquement, c'est toujours les mêmes trucs qu'on entend. Et je pense que cette parole, cette doxa populaire est juste, on n'a pas assez le temps. Et tout se passe comme si les programmes, la mise en place des programmes, étaient institués de façon à ce que les gens ne soient pas à même de finir ce qu'ils ont entrepris. D'ailleurs, il y a une culture d'entreprise répressive qui était définie par Christophe Dejour dans un ouvrage Souffrance en France. C'est un psychologue social qui travaille sur la répression physique et affective des gens par la mise en place des choses. Puisqu'on est société capitaliste, il n'y a pas une dictature directe, il y a une dictature indirecte par la force des choses. Ce que connaît n'importe quel prof ou universitaire avec les réformes qui sont en cours. Et ça joue toujours sur le temps. On n'a jamais le temps de se poser, de réfléchir. Il y avait un philosophe et dessinateur, Gébé, qui avait écrit un ouvrage qui s'appelle L'An 01, il disait on arrête tout, on réfléchit, c'est pas triste. Et une vraie pédagogie de projet, ça serait ça, justement. Est-ce que vous avez le temps de raconter une histoire, une petite histoire parmi les projets que vous avez lancés, pour une histoire, une anecdote qui cristallise et qui pose question?
Sur les projets journal, par exemple, ou le projet cuisine, peut-être celui qui sera le plus intéressant de ce point de vue-là, on a eu vraiment, d'un point de vue temporel, enfin, au niveau de l'organisation, on avait 1 ou 2 heures par semaine, en fait, pour mettre en place le projet. Ça se fait sur l'année, Et on a eu vraiment beaucoup de problèmes pour à ce que les étudiants, enfin, à ce que les apprenants, à ce que les, tous les acteurs en place, parce que là, on est tous sur le même niveau, que ce soit enseignants, directeurs de l'établissement, enfin, tous les acteurs en présence pour le projet, on a eu du mal à trouver des moments pour la concertation, pour la négociation justement commune. C'est-à-dire que la négociation, on l'a demandé aux apprenants de négocier entre eux les contenus, concrètement les menus, ce qu'on va faire, etc. Mais la concertation avec tous les acteurs et la négociation entre tous les acteurs du projet était très difficile, vraiment difficile. Exactement. Mais ce qu'on demandait aux apprenants, donc c'était un petit peu faites ce que je dis, mais pas ce que je fais, quoi. C'était un peu ça. Voilà.
Merci. On t'a donné quand même. Vous savez que les colloques, ça se passe pas seulement dans les moments officiels. Elle est là, Émilie, elle va rester jusque samedi midi, même samedi après-midi. Magnifique tableau où on voyait des conceptions qui se mettaient en place progressivement pour faire le compte, par exemple, des choses extrêmement concrètes qu'elle n'a pas eu le temps de présenter malheureusement.
Mais, voilà.
Elle est là. Merci. On enchaîne tout de suite avec, avec Pascal Noir. Bon, vous avez une présentation. Toute une batterie là.